Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP qui publie Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'Écho. À la une du numéro du mois de mars, salaire. Qui aura la plus grosse part ? Point d'interrogation. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière, et Robin Rivaton, le directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes l'auteur de Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Juste avant de parler de l'immobilier, on s'est réjoui depuis 3 semaines, 1 mois, Jean-Marc, que finalement la récession tant annoncée n'était pas là. On s'y réjouit trop vite, vous croyez ?
Ah non, pas du tout. Non. Je pense que les éléments...
Ce qu'on vient de se raconter avant, là ?
Oui, j'entends bien. Et effectivement, il y a toujours une menace d'une erreur fatale. Mais quand vous regardez quand même les enquêtes auprès des chefs d'entreprise...
Je suis d'accord.
C'est parce que l'économie, c'est des gens qui se lèvent le matin tôt pour aller travailler dans des lieux de travail, même si maintenant ils sont de plus en plus en télétravail. C'est ce que racontait Laurent Vronsky un jour ici. C'est bon, à l'Argenteuil, l'antenne de ma banque, quand je lui parle du quantitative easing, il dit, je sais pas. En revanche, votre crédit, là, ça va pas du tout. Donc c'est ça aussi l'économie. Et donc, quand on regarde les enquêtes aussi bien de la Banque de France que de l'INSEE, pour l'instant, ce qui est important, c'est que les chefs d'entreprise sont tout à fait prêts à maintenir leur volume d'investissement. Et donc, c'est ça qui est le véritable enjeu. Alors, simplement, ça peut se retourner très vite. Ce que dit bien l'INSEE, c'est que les chefs d'entreprise, les enquêtes qu'ils font montrent que les chefs d'entreprise ont l'intention d'investir, mais ils sont quand même assez prudents.
C'est-à-dire, très faible visibilité, disent-ils.
Ils disent qu'il y a une très faible visibilité, exactement.
Okay. Il y a eu un paradoxe, c'est que un certain nombre d'entreprises ont finalement réussi à s'en tirer par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que la première vague, ça a été la hausse des coûts très forts et les pénuries. Et donc, les clients de ces entreprises ont compris que les prix pouvaient monter. Alors, quelle est la marge ? Jean-Marc en a bien parlé aux États-Unis, au fait qu'il y a moins de concurrence. Et donc, le cycle fait que beaucoup, le fait d'avoir des prix nominaux qui montent, ça permet quand même de passer et ça donne un peu d'enthousiasme. C'est-à-dire que quand vous êtes à zéro, c'est plus vertueux, mais vous pouvez pas monter votre prix de vente de 0,50% sans que votre client pousse des cris d'orfraie. Alors que quand on dit « Ah, il y a de l'inflation », la perception du prix est un peu moins forte par le client final parce qu'il ne sait pas si vous êtes juste en train de retransmettre purement votre augmentation des coûts ou si vous en prenez un peu plus. C'est pas dans tous les métiers. Mais dans beaucoup de métiers industriels, si vous prenez le luxe, d'ailleurs, métier où vous êtes moins sensible au prix, mais enfin... J'aimerais bien savoir quelle est la variation du sac, je vais donner aucune marque, mais enfin du sac de luxe que les Chinois s'arrachent aux Champs-Élysées.
Une idée.
Mais il a monté.
Bon, en tout cas, c'est vrai que la Banque de France, il y a encore 48 heures, nous a dit, non, c'est bon, l'inflation va décélérer, et la décélération va s'accélérer cet été, la croissance sera plus forte que prévu en 2023.
Oui, ils attendent... la marge, les 0,6.
Ah ben, 0, il passe de plus 0,3 à plus 0,6, oui.
Il avait été prudent avant.
Mais... Oui, c'est pas le Pérou, c'est en dessous de la prévision du gouvernement, le pouvoir d'achat va à peu près se maintenir, très légèrement baissé. Ça reste pour l'instant le scénario, nous évitons la récession.
Hein. Heureusement qu'elle dit pas le contraire.
Et sur les baisses de pouvoir d'achat, c'est, je rappelle, en France, c'est extrêmement rare, hein, le pouvoir d'achat a baissé depuis 1945 que 2 années, hein, en 1983 et en 2012. Alors j'associe ça au fait que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir et ils sont plus là, les socialistes. Donc le pouvoir d'achat ne baissera plus.
La Banque de France de dit moins 0,2 là.
Oui.
Robin, je pensais qu'il n'y avait pas d'immobilier. Moi ça me rassure, il n'y a pas d'immobilier parce que c'est un amplificateur de crise, l'immobilier. Il y a quand même eu légèrement de l'immobilier en 2008 avec des crédits hypothécaires pourris qui ont un peu mis le bazar. Et là vous me dites qu'en fait derrière ces banques régionales aux États-Unis, le mot immobilier existe ?
Oui, il y a beaucoup d'immobilier. Alors, c'est assez marrant parce que Signature Bank, l'une des deux banques qui est tombée, était la banque...
celle de Monsieur Franck.
Voilà, oui. Celle de Monsieur Franck. Était la banque qui prêtait aux multipropriétaires new-yorkais. Donc, c'était vraiment la banque des gens qui avaient 3-4 immeubles à New York. Et en fait, en 2018, ils disent, on est trop exposé à l'immobilier, on va se mettre sur les cryptos. joyeuse idée. Et donc, pendant 4 ans, il prête à toute la scène ce compte de crypto start-up. Et puis, en 2023, la marée se retire, comme on dit, et puis la vérité apparaît. Mais les autres banques régionales, donc tout ce système de banques régionales, elles sont très nombreuses aux États-Unis, elles ont plutôt beaucoup prêté au secteur immobilier. Juste pour donner un chiffre, leur part dans tous les prêts, ce qu'on appelle commercial real estate, donc l'immobilier tertiaire aux États-Unis, le bureau, tout ce qui n'est pas du résidentiel, leur part dans la production de ces crédits est passée de 58% avant, en 2016, à 70%. Elles ont vraiment pris une très très grosse ampleur dans ce sujet-là, en prêtant pour plein de projets de développement de bureaux dans toutes les villes régionales que vous pouvez imaginer aux États-Unis, et en accélérant post-Covid, en se disant va y avoir les gens vont bouger des grandes villes vers les plus petites régionales, et donc ça vaut le coup de mettre un grand immeuble de bureaux ici. Ces banques-là, ces créances-là, elles sont aujourd'hui relativement bien servies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas des prêts qui sont non performants, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être remboursés. La question qui se pose, c'est si tout d'un coup ces banques doivent rembourser très vite les déposants, qu'est-ce qu'elles vont vendre comme actifs ? Elles vont vendre ces actifs immobiliers, du moins les titres immobiliers qu'elles ont sur ces actifs, les crédits. Et ces actifs, aujourd'hui, un immeuble de bureau en banlieue d'une ville régionale américaine, avec le télétravail, on se rend compte qu'en fait, les gens, ils n'ont pas vraiment quitté les grandes villes, on se dit que ça vaut un peu moins cher que quand on a prêté. Et, Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, il faut espérer qu'il n'y ait pas un bank run sur les caisses régionales.
Et deuxième facteur, qui est purement technique, qu'est-ce que c'est que de l'immobilier ? C'est de l'obligation à très long terme.
Ouais.
Vous le voyez bien quand on explique que 1% de hausse des taux, enfin qu'on a perdu 20 mètres carrés.
Hein ? C'est ça.
20 mètres carrés puisque les taux sont plus hauts. Donc ça veut dire que quand vous avez une obligation, un crédit que vous avez fait à 1%, et que maintenant le niveau des taux pour l'immobilier, il est plutôt aux États-Unis à 8, 9, 10.
On est à 10.
Oui.
Sur l'immobilier commercial.
Oui, c'est 10%.
Et ça m'avait échappé.
10%.
Je vous crois.
Enfin, il était peut-être, d'ailleurs, il n'était pas 1, il était à 2, mais enfin, il était à 8, il est à 8, 10 aujourd'hui. Donc, ça fait 8% sur une duration longue, c'est-à-dire sur une durée longue. Et donc, le calcul, ça va être de l'ordre de 40% de perte. C'est-à-dire que vous avez perdu 40% sur ces crédits. Donc, si vous avez perdu 40% sur ces crédits, les banques, là, est-ce qu'elles sont solvables ou pas ? C'est pas évident. Donc là, on prend le théorème de Jean-Marc.
Jean-Marc, tue la banque.
Le crédit.
La banque est solvable, la tue.
Le crédit est plus cher. Les refus de prêt se sont multipliés. Les transactions sont plus rares. Elles sont plus longues. On voit que les ventes de logements neufs se replient très sérieusement. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une dimension immobilière à laquelle on pensait échapper, qui pourrait s'installer dans les clignotants qu'on observe?
Oui, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord...
On parle de la France, là.
Oui. Non, mais la France, c'est effectivement... Mais Robin l'a dit, aux États-Unis, on a expliqué aux gens, vous allez quitter New York, vous installez...
On a expliqué, on a pensé qu'ils allaient.
Oui, on a dit, voilà...
On a pensé ici aussi qu'il y aurait un exode urbain, il n'y a pas eu d'exode urbain.
Oui, mais ça veut dire que, grosso modo, on échange de la population de Paris et de Lyon contre la population à Angers et à Brest.
Oui, c'est ça.
Mais on n'est plus dans une phase où la population augmente. Et donc, vous avez des projections sur l'immobilier qui expliquent que, en fait, on n'est plus dans la phase où il y avait besoin de logements parce qu'il y avait de plus en plus d'habitants. On est dans la phase où il y a une sorte de relocalisation des populations avec... on est passé de l'exode rural, maintenant, à une forme d'exode urbain, où on change. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes plus dans un système qui est en expansion automatique. Vous êtes dans un système où on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que, je maintiens, dans les années 60, on pouvait construire un bâtiment, on trouvait toujours quelqu'un pour l'occuper. Là, maintenant, il faut trouver quelqu'un pour le... malgré les discours sur le manque de logements, il faut faire 500 000 logements par quinquennat et tout ça. Et donc, je pense que la réflexion de l'immobilier devient une réflexion, mais là, je parle sous contrôle de Robin Rivaton, d'une réflexion plus minutieuse. C'est moins automatique, moins facile. Et donc, indépendamment des aspects conjoncturels de l'évolution des taux d'intérêt, je crois qu'il y a un vrai enjeu sur l'immobilier. Pour la ramener, encore une fois, avec des citations d'économistes célèbres, Keynes, en 1938, avait écrit à Roosevelt en lui disant « Il faut surtout pas arrêter la relance et tout ça. Et si vous avez un doute, il faut soutenir le logement et l'immobilier parce que la population américaine va s'accroître et tout ça. Et s'il y a un secteur qui sera jamais en crise, c'est l'immobilier. » Sauf que depuis, l'immobilier a été, un, souvent en crise, et deux, la logique, la population va s'accroître, elle ne s'applique... Alors, elle peut s'appliquer aux États-Unis, mais elle ne s'applique carrément pas aux pays européens. Donc, je pense que la réflexion sur l'immobilier va changer de nature, mais c'est plutôt le spécialiste qui va réagir à cette affirmation.
Dans un instant, généralement, l'immobilier, on finit par le trouver dans deux graves crises. Sur trois, il y a de l'immobilier quelque part. Hein. Il y a cet auditeur journaliste qui s'appelle Onillon qui me dit l'intérêt du Glass-Steagall Act, c'est que la Banque centrale pourra se contenter de sécuriser les dépôts et ne plus sécuriser les investissements. Quand vous entendez ça, ça vous inspire ?
C'est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que quand vous avez une très grande banque qui fait à la fois de l'investissement et de la banque de crédit, l'investissement peut rajouter du risque, notamment par exemple sur les marchés.
Non, mais là, l'idée, c'est que s'il y en a une qui doit crever, c'est celle de l'investissement et que celle des dépôts, on la sauve.
Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que de quoi parle-t-on à la seconde ? C'est de dire qu'est-ce que valent, par exemple, les crédits. Là, c'est pas de la banque d'investissement. Les banques américaines qui font du crédit immobilier, c'est de la banque commerciale.
Ah oui, c'est de la banque.
Et donc, c'est du bon côté, entre guillemets, du Glass-Steagall Act.
C'est du côté banque gentille, c'est ça.
Et donc, le problème, c'est que ça suffit pas. Parce que si ces crédits sont mauvais, il reste le problème des dépôts. Donc, la question de comment est-ce qu'on sécurise les dépôts, elle est très complexe. Peut-être que ce sera justement la monnaie numérique banque centrale. Peut-être que ce sera la réduction des banques. Ce sujet n'est pas réglé.
Robert Ivaton, oui.
Il a raison. C'est-à-dire que le Glass-Steagall Act, ça crée deux types d'établissements financiers. Et dans toute une partie de son croyait-être des banques, ne relevait pas de la banque centrale. Lehman Brothers, ce n'était pas une banque
Il a raison au sens où ça réduit le problème, mais ça ne le fait pas disparaître.
Voilà.
La banque centrale, banque d'affaires, Lehman Brothers.
Voilà, exactement. C'était pas, effectivement, elle n'était pas concernée par la banque centrale.
Non, mais elle avait 34 étages à Manhattan, elle était symbolique, elle était visible. Bon, c'est pas comme la SVB qui avait un petit bâtiment à Santa Clara.
Pour sauver Goldman Sachs ou Morgan Stanley, on leur a demandé de devenir des banques.
Exactement. Merci. Exactement. Parce que c'était comme les Van Brothers. C'était plus des banques.
Je parlais avec vous, et je parle toujours de l'immobilier, mais de la construction aussi quand vous venez, Robin Ivaton, parce que c'est quand même c'est votre métier aujourd'hui. Et parmi les éléments, je mettais crédit, transactions, vente dans le neuf. Vous me dites que l'un des éléments explicatifs de la situation que nous connaissons, qui est un marché de pénurie, c'est qu'on est allé trop loin, probablement, dans le siphonnage des recettes des collectivités locales.
Oui, alors juste pour expliquer quand même ce qui s'est passé. L'immobilier, c'est la classe d'actifs qui est la plus leveragée, donc qui a bénéficié le plus de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, on a vécu une décennie incroyable, c'est-à-dire en nombre de transactions. Le nombre de transactions a été multiplié, a fait plus 50%.
Des 2 millions de...
1,2 million. On est passé à 700 000 transactions dans les années 2010, à 1,2 million. Donc un truc qui fait plus 50% sur un marché aussi gros, ça doit quand même un peu tilter dans les oreilles des gens, quoi. Il n'y a pas de raison, la vis du marché, là, c'est pas tout d'un coup amélioré significativement. Les prix ont explosé, la construction, on a produit beaucoup de logements, donc on a vécu des années extraordinaires. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, bah ouais, c'est moins bien. Bah oui, quand on est tout en haut, si on redescend un peu, c'est moins bien.
L'effet de base fait que...
Forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce qui se passe sur le secteur, c'est pareil. Dans le secteur, tous les gens qui étaient dans le secteur, quand le marché avance tout seul, ce qu'on appelle le bêta, il n'y a personne qui faisait de l'alpha. C'est-à-dire que même la chèvre, elle investissait, puis elle finissait par avoir un rendement. Elle trouvait quelqu'un qui prenait son immeuble à la sortie. Donc, il n'y a pas eu de dispersion des performances. Tout le monde a fait de la perf. Aujourd'hui, c'est plus dur. C'est plus dur pourquoi ? Parce que, Jean-Marc l'a un peu dit, il y a des classes d'actifs qui ont disparu. C'est-à-dire que plus personne ne fait du bureau aujourd'hui. Le bureau, on s'est rendu compte qu'en fait, télétravail, dès qu'on n'était pas en centralité, c'était moins sexy, et donc les gens, ils veulent plus faire du bureau. Le commerce, e-commerce, tout le tralala, les centres commerciaux, on touche ça de loin. La seule classe d'actifs qui garde un peu d'intérêt, c'est le résidentiel. Je vais m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, mais c'est que effectivement, la population croit beaucoup moins, ça c'est certain, mais il y a un driver qui est très puissant pour le résidentiel, c'est que les gens vivent seuls. Donc il y a une diminution du nombre de personnes par foyer très très forte et qui va continuer, il va se poursuivre dans le temps. Donc s'il y a moins de personnes par foyer, il faut plus de foyers.
Il faut plus de...
C'est assez basique. Donc il y a un très très fort soutien sur le résidentiel, ce qui fait que dans l'ensemble, il peut y avoir des baisses de prix ici ou là, mais le résidentiel est un marché qui va plutôt...
C'est pas époustouflant les baisses de prix. Il y en a, mais elles sont pas époustouflantes.
Elles sont relativement... Vu la baisse de la production de crédit, elles sont même anormalement basses en réalité. C'est-à-dire qu'on aurait attendu à ce qu'elles soient plus fortes, ces baisses de prix. Donc ça c'est le marché. La question sur ce marché qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on est capable de produire... Il y a deux questions. Est-ce qu'on va être capable de produire suffisamment de logements pour répondre à la demande ? Et là, vous avez pointé ce que je vous disais, c'est que aujourd'hui les communes, les collectivités territoriales n'ont plus aucun intérêt à faire venir de nouveaux habitants. Il n'y a plus aucun lien dynamique entre le nombre d'habitants et les recettes d'une commune. Or, le maire, on peut lui faire plein de reproches, mais il y a quand même un compte de résultat qu'il doit rendre à l'équilibre à la fin de l'année.
Pas Bruno, le maire d'un village.
Maire d'un village ou d'une ville, il doit rendre un compte de résultat avec des recettes, des dépenses, doit être à l'équilibre à la fin de l'année.
C'est la loi.
Et donc s'il dit, vous faites venir des nouveaux habitants, il faut faire place de crèche, écoles, vidéosurveillance, les polices, la police municipale, les espaces verts, dit bah moi je ne veux pas de nouveaux habitants.
Parce qu'on lui a retiré trop d'argent. Avec la taxe d'habitation.
Il y a plus la taxe d'habitation qui était le seul lien dynamique qu'il avait. Donc il va augmenter la taxe foncière, il va tirer un peu. Mais bon, au bout d'un moment, les gens qui viennent, il n'y a pas que des propriétaires. Dans les gens qui viennent dans une ville, il y a des locataires aussi. Donc il y a un vrai sujet là-dessus qui est comment on réussit quand même à construire un nombre de logements. Alors je ne sais pas si c'est 500 000 par an, moi je pense que c'est un peu plus bas.
C'est pas par an.
Si, c'est par an.
C'est par an.
Mais bon, peu importe le nombre de constructions, parce que si vous les mettez n'importe où, si vous les mettez à Agen, bon, les maisons, elles ne servent pas à grand-chose. Donc autant les mettre là où il faut. Donc il faut plutôt faire 500 000 bien ciblés. Et l'autre question qui se pose, c'est quand même de se dire.
Bien revient, à Agen aussi.
J'allais dire à Toulouse.
Ouais. On revient à la question des banques centrales. C'est que la question qui se pose, c'est que si les gens ne deviennent pas propriétaires de leur résidence principale, c'est le moyen le plus sûr pour que les gens de la classe modeste créent du patrimoine. Et aujourd'hui, en ayant freiné, comme on l'a fait, les taux d'intérêt, donc en ayant bloqué la capacité à acquérir sa résidence principale pour beaucoup de foyers modestes ou de classe moyenne, on empêche la création de patrimoine pour ces gens-là. Et ça, ça a un impact à très long terme.
C'est ce que vous appelez une bombe sociale. ChatGPT, Guillaume Dard. Est-ce que d'abord vous redoutez ChatGPT ? Est-ce qu'il faut encadrer ChatGPT ? Ce qu'a fait un député était assez inattendu pour essayer d'alerter un petit peu sur ce qu'il lui appelle les dangers. Il a décidé qu'il déposait un amendement au projet de loi sur les JO 2024, rédigé intégralement par une intelligence artificielle.
Alors, d'abord, un témoignage personnel. Quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit « Ah, peut-être qu'il va me donner les bonnes solutions. » Donc je lui ai demandé dans quel domaine il fallait investir.
Là, c'est le 4, là. On parle du
GPT-4. Oui, j'ai compris. Enfin, bon. Dans quel domaine fallait-il investir ? Le problème, c'est que comme sa base de données s'arrêtait à, je sais plus si c'est 2021, il m'a dit « Ah, je sais pas, parce que là, je sais pas lire l'avenir. » Et puis, en tout cas, c'était très prudemment fait, puisque c'était ce qu'on appelle un disclaimer, c'est-à-dire des consignes de précaution en disant pour investir, demandez à votre conseiller financier ou à votre banque. Ça aurait pu être fait par une autorité réglementaire. En tout cas, pour l'instant, ChatGPT, vous poussez pas à la bêtise. Bon. Alors, la tentation européenne et française, effectivement, de tout de suite, quand il y a une invention, essayer d'en limiter les effets.
J'ai un auditeur qui m'a dit exactement ça.
Limiter les effets, elle est un peu consternante. Et cette espèce, au fond, la France qui aimait le progrès, la France qui aimait les voitures, qui aimait l'aéronautique, je me souviens encore de l'enthousiasme quand le Concorde s'est mis à voler, on était content qu'on avait une fusée. Alors, on est d'ailleurs encore intéressé, hein. Quand SpaceX est parti, tout le monde a regardé la télévision, hein. C'était sur BFM non-stop. Donc, mais comme on le fait plus vraiment nous, on a une espèce de méfiance quasiment. On se croirait au XVIIe siècle. On n'aime plus l'invention. Je veux dire, on est prêt à casser les machines. Et donc, avant de légiférer, enfin, c'est vraiment la phrase connue. C'est si ça marche, taxez-le. Si ça marche encore, réglementez-le, et si ça marche plus du tout, subventionnez-le, quoi. Enfin, donc, alors que ce matin sur BFM Business, on voyait que le patron l'ex-patron de l'intelligence artificielle de Facebook,
Yann Lecun.
Voilà.
Yann Lecun.
Était maintenant créé quelque chose en France dans la défense, et il expliquait que la plupart des bons ingénieurs sur l'intelligence artificielle de tout le groupe Meta était basé en France. Donc, commençons pas à perdre d'avance. Enfin.
Mais non, mais je pense pas que ce soit de la haine d'un produit américain. C'est la crainte de ce qu'il est capable de faire.
La crainte
plus que l'origine.
Si on est que dans la crainte du nouveau avec des logiciels, comme le disait.
Cet auditeur s'appelle JP. Il me dit j'ai honte de cette Europe incapable d'innover, mais experte pour taxer et freiner les outils révolutionnaires comme ChatGPT.
Voilà. Il a raison. Non, mais je veux dire.
L'esprit faible détruit ce qu'il ne comprend pas. Jean-Marc,
un livre dont nous avons parlé à la librairie de l'Écho, le livre de Daniel Susskind, qui est un des spécialistes anglais un économiste anglais assez connu, il dit bien, en fait, face à toute nouvelle invention, il y a une réflexe de résistance des gens qui vont perdre leur emploi. Il dit au début, qui a perdu des emplois, c'est les chevaux. Bon, on n'a pas de résistance, les mecs ont disparu, ils ont disparu, on les a cantonnés dans des écuries, puis on n'en a plus parlé. Ensuite, ça a été des gens qui développaient une force physique. Donc là, on a tiré dans le tas, on leur a laissé adhérer au Parti communiste pendant un certain temps, puis après, Il dit, maintenant, c'est la classe intellectuelle qui est menacée.
Et l'intelligence carbonée.
Et l'intelligence carbonée.
Ça fait
de champs. Et il dit, normalement, il y a trois métiers qui vont disparaître, c'est médecin, avocat, journaliste. Or, les trois sont des braillards. Et donc, il explique que...
je peux vous allonger la liste, hein, Jean-Marc. Je peux vous allonger... Professeur, hein.
Professeur aussi. Oh, oui. Professeur aussi. Et donc, il dit bien, effectivement, on va assister à une espèce de combat d'arrière-garde qui prend des formes différentes. Les chevaux, rien. Les manuels, ça a été une forme de violence physique. Là, ils vont nous envahir les écrans, avec un discours, un message, comme quoi ils sont utiles, indispensables et tout ça. Mais de toute façon, et je pense effectivement, pour revenir au professeur, il y a 100 000 professeurs d'université, je pense qu'il y en a besoin de 10 000.
Non.
Et donc, alors je ne vais pas me prononcer sur les journalistes, ce serait délicat. Sur les avocats, maintenant,
l'intelligence... Il y a 35 000 journalistes en France, à peu près.
L'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis, réussit mieux les concours pour s'inscrire au barreau que la plupart des étudiants en droit.
Vous avez fait Polytechnique, Jean-Marc.
Oui.
ChatGPT, en voyant avec une caméra, hein, pas en rentrant des données écrites, le sujet d'entrée à Polytechnique a mis 10 secondes pour trouver la solution.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que j'ai été capable de passer cet exercice en mathématiques, après, ne m'a plus jamais servi à rien. Plus personne ne m'a demandé de faire des mathématiques.
C'est comme tous ceux qui ont dit, il faut faire allemand LV1, et qui disent aujourd'hui, mais j'ai jamais utilisé l'allemand de ma vie. Enfin bon, j'entends...
Ça, c'est une erreur.
J'entends bien, mais...
C'est pour ça qu'on ne communique pas assez avec les Allemands.
L'intelligence au silicium qui est capable de se substituer à l'intelligence carbonée, je pense que c'est... D'un coup, d'un seul, c'est sans doute plus révolutionnaire que l'arrivée de la photocopieuse ou l'arrivée du camion citerne, vous voyez, enfin du camion benne, pour alléger les charges lourdes.
Robert Rivaton. Juste un mot, parce que chez Stonal, c'est ce qu'on fait. Nous, on applique de l'IA à la partie immobilière en apprenant à une IA à lire tous les documents immobiliers. Donc, elle est capable de lire un bail, un document technique. Et donc, on remplace personne, parce qu'en fait, personne ne le faisait. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, tu vas ouvrir tous les documents pour vérifier s'il y a bien la clause anticorruption ici. Personne ne le faisait. Donc en fait, on remplace pas vraiment quelqu'un. La machine vient vraiment faire des tâches que l'être humain avait décidé que c'est trop pénible de ne pas faire. Mais alors, juste un mot sur ChatGPT. ChatGPT,
c'est les profs les plus inquiets parce que les élèves vont arrêter de réfléchir.
Oui.
Bon, au début, c'est là-dessus que l'inquiétude.
On a dit ça. Arrêter de réfléchir.
Ils ont commencé.
Ça a déjà commencé il y a longtemps. Je ne dis pas ça devant mon dossier d'élèves. Mais vous savez que sur l'intelligence artificielle, la première élément qu'ont dit les professeurs, c'est qu'on repère tout de suite un texte d'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas assez de fautes d'orthographe.
Bah oui. Vous connaissez l'histoire, quand moi-même j'avais fait faire des devoirs à des élèves et que dès que c'était bien écrit avec une pensée un peu structurée sans faute, je retrouvais la source sur Google, de A à Z. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'IA, mais il y avait déjà Google. Pardon, allez-y, Robert.
Juste sur ChatGPT, parce qu'on en parle beaucoup. ChatGPT, en fait, c'est l'écume de la vague. C'est une révolution d'abord culturelle, au sens où il y a plein de gens qui ont découvert l'IA à cette occasion-là, mais l'outil en lui-même, c'est un outil, on n'en est pas sûr qu'il va être celui de demain. Aujourd'hui, il y avait une quinzaine de milliards de dollars investis dans l'IA il y a 10 ans. C'est 176 en 2022, ça va être sans doute 300 en 2023. Quand vous investissez 300 milliards à l'échelle du monde, vous trouvez des choses. Voilà, la règle est assez simple. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas si c'est OpenAI, je ne sais pas si ce sera Meta, je ne sais pas si ce sera Nvidia.
OpenAI est le fonds qui assure.
C'est une société qui fait. À profit limité, mais c'est une société.
De ChatGPT.
Voilà. Donc,
cliente de SVB.
La seule chose que je sais, c'est que toutes ces boîtes-là sont américaines et un petit peu chinoises. Oui. Toutes sont américaines. Il n'y a pas une équipe européenne. Il y a des Européens qui travaillent dans ces sociétés-là, ça c'est sûr.
Ce matin sur BFM, il y en avait.
Les boîtes sont minuscules. Vraiment, c'est des boîtes. Alors, il y aura des applicatifs de certains modules de l'IA à des métiers, comme ce que nous on fait. Donc, ça marche très bien. Mais ce que je veux dire, dans les gens qui sont les producteurs des briques essentielles, donc c'est le modèle de langage étendu, ce sont que des Américains. Donc, l'Europe est complètement passée à côté. Et l'Europe est en train de réglementer ce système-là, histoire de se dire, au moins, on est passé à côté de manière consciente. Donc, c'est un choix intéressant.
Ah, il faut espérer que ça ira pas trop loin dans la réglementation, parce que
elle existe cette réglementation.
C'est comme si on disait, c'est à l'époque de la tradition orale, ceux qui savaient l'Iliade et l'Odyssée par cœur, a dit non, si c'est écrit, ça.
Exactement.
Alors à ce moment-là,
3 minutes. Ça compte plus. Jean-Marc.
C'est comme refuser l'imprimerie. Quoi.
Le CEPI publie aujourd'hui un document, une étude, réalisée notamment par Thomas Grigebin, parmi les économistes concernés, où ils essayent de chiffrer le coût social de la transition écologique. Selon eux, le coût social va être à peu près équivalent, en termes d'emploi, à ce qu'a provoqué la désindustrialisation de la France entre 1997 et 2021. Ils affirment que non, le tertiaire ne compense pas les emplois supprimés dans le cadre du recul de l'industrie. Non, les licenciés de l'industrie n'ont pas tous pu rejoindre d'autres entreprises performantes. Beaucoup, beaucoup ont eu du mal à retrouver un véritable emploi au sens de l'INSEE. Et les peu qualifiés qui ont retrouvé un emploi y ont généralement perdu en salaire. Et donc l'un des auteurs dit « le mécanisme schumpeterien de destruction créatrice ne fonctionne pas ». C'est donc une vision très sombre de ce que la nouvelle révolution verte, cette fois-ci, va provoquer en termes de
oui, oui, ça fait deux siècles que, alors on parle de l'intelligence artificielle.
On a deux minutes, hein, Jean-Marc.
Oui, oui. Là, on pourrait dire, non, mais tous ces avocats, ces médecins, ces professeurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont jamais retrouver un emploi et tout ça. On nous a déjà fait le coup avec l'exode rural. Il y a un exode industriel. Et puis, il n'y a jamais eu autant d'emplois dans ce pays que depuis que la désindustrialisation annoncée est en cours. On a supprimé 3 millions d'emplois industriels et il n'y a jamais eu autant d'emplois dans ce pays. Donc, tout ça, c'est des annonces qui sont des annonces qui sont assez traditionnellement catastrophistes et qui ne correspondent pas à ce qu'on observe sur le terrain.
Alors, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, vous prenez les phénomènes de forte désindustrialisation qui ont touché plus certains endroits que d'autres, et ils disent, objectivement, vous avez quand même des territoires où les salariés, comme les territoires, globalement, ne s'en relèvent pas ou difficilement. Alors, oui, effectivement, si on regarde de tout en haut, on va peut-être dire, ah ben, regardez au global, okay. Mais localement...
Voilà, non, mais Schumpeter dit pas... Je parle sous le contrôle de Jean-Marc, mais Schumpeter n'a pas écrit qu'il y avait un remplacement du job qui était détruit le lendemain matin. Oui. Donc, il y a deux choses. Le phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire, au fond, l'économie bouge structurellement en permanence au fur et à mesure et des innovations marquantes. Et c'est évident que à des phases d'innovation très marquantes ou de transformation très fortes, il peut y avoir un temps de réglage pour qu'on retrouve les jobs. Donc, mais ça ne met pas, ça met en cause, ça alerte sur un phénomène. Encore que nous, j'ai mon pensée, on est très attaché à la transition climatique. Et tout ce qu'on voit, c'est que ça va plutôt créer davantage de jobs. Donc, cette étude est sûrement parfaite, mais j'en ai vu 5 ou 6 où ça dit exactement le contraire et que ça va créer deux fois plus de jobs.
Ils sont convaincus qu'il y aura des réallocations de secteurs gagnants vers des secteurs perdants. Mais avec des forts déséquilibres territoriaux.
Cette étude est sûrement formidable, j'en ai vu 5 qui disent le contraire.
J'avais simplement envie de dire à Jean-Marc Daniel, les yeux dans les yeux, la destruction créatrice ne fonctionne pas.
Non, mais il y a un siècle, si vous regardez la répartition de la population, il y avait plus de gens autour de Lens dans le Massif Central qu'il y en a aujourd'hui. Bon, entre-temps, on a fait de l'exode rural et on a fermé les mines.
Jean-Marc Daniel aujourd'hui, Guillaume Dard et Romain Rivaton. On se retrouve demain à 9h.